Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je prends deux secondes pour revenir sur le drame d'Ottawa parce que Bénédicte a fait le portrait de la situation. C'est incroyable. C'est une attaque au couteau. Quatre enfants, deux adultes, un gars de 19 ans. Je faisais le tour ce matin, entre autres le Globe and Mail, qui dit que c'est un jeune homme qui avait été hébergé par cette famille. Un jeune homme qui est originaire du Sri Lanka, la famille également. Officiellement inscrit pour des études, sauf que il était absent de son école depuis pratiquement un an. Certains parlent de problèmes de santé mentale, problèmes suicidaires, des idées noires. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a attaqué cette famille au grand complet? Ça demeure pour l'instant un mystère, on ne le sait pas. Et le portrait qui est fait de cette famille, il y a quelque chose qui, je pense, est d'abord très touchant parce que c'est une famille qui est venue ici, au Canada, pour trouver une voie meilleure pour leurs enfants. Très impliqués dans la communauté, la famille, les parents fréquentaient le temple et ont décidé d'ouvrir les bras pour accueillir d'autres personnes du Sri Lanka. Une des personnes qui a été tuée, c'est une femme de 40 ans, était justement en transit, venait d'arriver et était hébergée chez cette famille. Donc, c'est des gens qui ont été victimes jusqu'à un certain point de leur générosité dans ce cas-là. Et donc, on verra avec les procédures pourquoi, comment c'est arrivé. Mais c'est évidemment un choc quand vous êtes une famille complètement décimée. Journée donc internationale des droits des femmes. Vous allez voir ce matin dans l'ensemble des médias beaucoup de témoignages. Je le disais tantôt, on va recevoir Dr Diane Francoeur et France Beaudoin, deux femmes inspirantes dans des sphères d'activité évidemment très, très différentes. Mais ce qui revient beaucoup, je pense, quand cette journée fait l'objet de débats, de discussions, c'est que longtemps on a pensé que les avancées étaient telles qu'il n'y aurait jamais de recul. Et on s'est rendu compte dans les dernières années, et on prend la question de l'avortement, que c'est extrêmement fragile. Quand vous dites que la France vient d'enchâsser dans la Constitution le droit à l'avortement, et le droit c'est une chose, mais l'accès à l'avortement c'est autre chose. Au Canada, le droit est reconnu, mais l'accès n'est pas le même pour toutes les femmes et dans toutes les provinces. Et c'est une bataille constante qui doit être faite. Ce matin, dans Le Devoir, on parle d'une lettre envoyée par les ministres Martine Biron et Simon Jolin-Barrette au fédéral pour amener le gouvernement à criminaliser ce qu'on appelle le contrôle coercitif pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. Parce qu'il y a de la violence physique, c'est une chose, il y a de la violence psychologique et il y a cette violence qui existe également par la force, mais elle peut s'exprimer de différentes façons. Donc, comment on peut définir ça? Souvent, ce sont des comportements qui... c'est une prise de contrôle qui est un peu insidieuse et qui fait en sorte que vous contrôlez, par exemple, les finances. Vous menacez un ex-conjoint, conjointe, de ne pas voir ses enfants. Vous exigez de votre partenaire un compte-rendu détaillé de ses activités. Où es-tu? Je veux une photo par texto pour que tu me le prouves. Tous ces comportements qui représentent de la violence ne sont pas l'objet de dispositions du Code criminel. Et le fédéral s'est montré ouvert et le Québec met de la pression. On sait que c'est une stratégie du gouvernement d'écrire, là, on l'a vu en immigration, mais d'écrire à ses vis-à-vis au fédéral en disant « Ici au Québec, on a amorcé ce virage avec, entre autres, les tribunaux spécialisés. » Donc, ça prend du temps, votre affaire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, accélérer? Alors, lettre pour souligner cette journée du 8 mars également. Maintenant, on va parler aussi ce matin d'une ado qui a été agressée par son intervenant. Ça se passe à la DPJ de la Mauricie. et du centre du Québec. C'est dans la presse de ce matin. Elle était hébergée. Et là, le dossier est présentement sous étude par la Direction nationale de la protection de la jeunesse. C'est un enfant âgé de 14 ans. Ça s'est passé en novembre 2022. Elle venait de recevoir un congé de l'hôpital et se trouvait dans un véhicule avec un employé de la DPJ qui devait la raccompagner vers le centre. Et il semble que l'agent s'est mis à lui faire des attouchements, qu'il a arrêté le véhicule dans une rue pour l'embrasser et multiplier d'autres gestes à connotation sexuelle. C'est ce qu'a écrit la juge Marie-Pierre Jutras de la Cour du Québec dans une décision datée du mois de janvier, mais qui est passée sous le radar, là, qui a été rendue publique cette semaine. L'adolescente l'a dénoncée dès le lendemain. Elle a été interrogée par la police 12 jours plus tard. L'homme a été congédié, arrêté et fait maintenant l'objet d'accusations au criminel. Alors, c'est un cas quand même qui est assez spécial. Pas la première fois, faut pas généraliser, évidemment. Mais ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que l'ado a pas perdu de temps, là. L'ado tout de suite est allé dénoncer les gestes posés par l'individu. Maintenant, le discours sur l'état de la nation de Joe Biden. D'abord, c'est une attaque en règle contre Donald Trump. Il a mentionné 13, 14, 15 fois, je ne sais plus, Trump comme étant une menace pour la démocratie, pour la paix aux États-Unis, en disant que c'est la pire chose qui soit arrivée depuis la guerre de sécession. Ce pays est déchiré. Et Trump contribue à créer des tensions au quotidien par ses attaques personnelles, ses attaques agressives, par le fait qu'il ne reconnaît pas sa défaite et qu'il se retrouve aujourd'hui avec une pluie d'accusations devant les tribunaux. Biden a rappelé un certain nombre de choses. D'abord que l'économie américaine va bien, et une des économies les plus performantes dans le monde. Deux, que il a mis de l'avant des stratégies pour protéger les droits des femmes sur l'avortement. Il n'a pas hésité à intervenir. Et c'est un droit qui est fragile, on l'a vu par des décisions rendues aux États-Unis. Le débat sur l'immigration est probablement un des enjeux importants qui va marquer la prochaine campagne électorale, parce que là, c'est clair, c'est un face-à-face entre Trump et Biden. Et il promet des mesures, mais c'est évidemment un point faible, parce que quand vous regardez le va-et-vient à la frontière, c'est sûr que c'est du jamais vu. Le mois de décembre, on s'est retrouvé avec 300 000 interceptions de gens qui viennent des quatre coins du monde, là. Et ça a un peu baissé au mois de janvier, mais c'est grosso modo 2,5 millions d'interceptions de migrants chaque année à la frontière. Et ça, Trump saute là-dessus et c'est son arme de combat préférée. En disant, moi, c'est pas vrai, vous allez voir, je reprends son expression, je vais me comporter comme un dictateur la première journée et je vais retourner les gens dans leur pays. Il n'est pas question qu'on accepte ça. Et Biden est revenu en terminant sur son âge en disant que il est en forme et quand on parle de vieilles idées, ben ça, c'est plus inquiétant qu'un vieux monsieur qui se dit en pleine forme pour à nouveau diriger les États-Unis. On va en parler aussi avec Jean-François Lépine. Pour ce qui est de Gaza et Israël, il n'y a toujours pas d'accord de cesser le feu. Et là, les Américains pensent à créer une espèce d'infrastructure provisoire en pleine mer pour être capable de livrer notamment du matériel humanitaire, de la bouffe, parce que c'est un enjeu, et on le dit pas assez souvent, on est en train d'affamer les Gazaouis. Et les ponts aériens, les convois ne sont pas surveillés et c'est, autrement dit, extrêmement difficile de pouvoir nourrir les gens correctement. Et puis un mot sur Haïti, vous dire que le désordre continue, que la capitale Port-au-Prince est toujours le théâtre de ces mouvements chaotiques de gangs qui ont vidé une prison. Et là, il y a des rues de bloquées. Encore, il y a un enjeu humanitaire. Camions, une douzaine de camions qui ont été hold-upés par des gangs armés, des camions qui étaient remplis de nourriture dans le cadre d'un programme des Nations Unies. Le premier ministre est toujours incapable de rentrer. On menace de le renverser s'il ne quitte pas ses fonctions. On considère qu'il n'est pas légitime. Il y a plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'élection en Haïti. Et ces gangs qui ont toujours, je dirais, bougé dans la mouvance politique, ben continuent de le faire, mais même si en apparence, comme nous disait notre collègue qui vit là-bas en Haïti, le jour c'est relativement tranquille dans les rues, mais il y a des postes de police qui sont pris d'assaut par ces gangs, donc c'est un désordre complet et ça continue. Oui, et je vais te donner des détails, et à nos auditeurs également. Alors, voici ce qui se passe. Ça a pris ben des téléphones hier, t'as dit qu'ils sont pas jasants. Hein? Un cadre de remplacement dont les dimensions pourraient convenir aux besoins a été trouvé.
Oui.
À la suite de l'appel lancé la semaine dernière.
Par le porte-parole.
Oui, écoute bien ça. Et là, c'est l'alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on a trouvé une pièce qui pourrait faire le travail. L'entrepreneur est disponible. Il y a une pause au tunnel La Fontaine.
Exact.
L'arrondissement, pardon, profite de cette fenêtre d'opportunité pour faire les travaux de réparation. Alors, nous serons en mesure de confirmer dans les prochains jours si la solution s'avère fructueuse. On ne le sait pas encore, mais on a obtenu d'autres infos.
Oui.
Ça a l'air que le cadre en fonte qui est utilisé a été trouvé dans une cour municipale.
Oui, au fond d'une cour.
Il était endommagé.
Fallu le réparer, toi.
Mm-hmm. Alors, le béton a été coulé et on doit attendre lundi pour qu'il soit sec et voir si ça marche.
Ben, en gros, ils ont trouvé une pièce qui est pas tout à fait parfaite pour fitter dans le trou, là, en mauvais français,
oui.
Pour remplir le cadre du collecteur.
C'est ça.
Mais c'est quand même plus proche que la pièce qu'on a fait couler sur mesure.
Oui.
Je vous rappelle qu'il manquait deux pieds.
Oui.
Parce qu'on s'est trompé entre le métrique et l'impérial.
Mais je veux juste rappeler, et là, je vais prendre la défense de Philippe Sabouret de la Ville de Montréal, qui est toujours l'agneau sacrifié qui vient ici en studio.
Oui.
Monsieur Sabouret s'est fait remplir par les gens de la Ville de Montréal. La preuve de ça, voici un extrait des propos tenus le 28 février.
L'été dernier, on a fait le tour de tout nos garages. On essaie de trouver une autre pièce comme ça. On l'a pas trouvée. Mmh. Ben là, ce qu'on demande, là, je lance un deuxième avis de recherche à tout le monde qui nous écoute à Montréal. Là. On va rechercher dans tout le raccoin, dans tous les garages, dans le fond des palettes poussiéreuses. On va essayer d'en retrouver une. Elle sera pas neuve, elle sera peut-être usagée. Je pense qu'on n'en a pas, mais on va faire l'effort de trouver ça. Ça aurait été la solution à court terme. Pour l'instant, tout nous porte à croire qu'on n'en a pas des pièces. Elle est unique. Mais on va réessayer ça.
Alors, tu comprends, là, on n'en trouve pas, mais finalement, on en a trouvé une.
On a trouvé quelque chose.
Bon. Et là, je te rappelle, ben tu le sais mieux que moi, là, qu'on attend depuis le mois de juillet.
Oui, c'est arrivé en juillet, puis il y a eu des analyses, puis la décision de commander une pièce sur mesure, ça a été pris en septembre.
Bon, fait que mettons, si on avait fouillé un peu mieux, on aurait peut-être trouvé la pièce, puis on aurait peut-être pu corriger le problème.
Au moins essayer.
Moi, en tout cas, essayer.
Prendre le trou par les cornes.
Hey, écoute... Alors, pauvre M. Sabourin qui est en vacances cette semaine.
Oui, mais on l'attend quand il va revenir.
Mais non, mais tu sais, le pauvre gars, il répète ce que la ville lui dit, puis quand on lui raconte des demi-vérités, ben c'est ça que ça donne. Ouais. Merci, Marc.
Avec plaisir.
Le Journal de Montréal nous parle d'un record de signalement pour des nids de poules. Surprise. C'est vrai qu'il y en a plein, puis c'est sûr qu'avec gel, dégel, la pluie et tout ça, ben ça fait que la chaussée est horrible. Et il y en a plein de nids de poules à Montréal, des crevasses. Là, je le sais, on va nous sortir les chiffres sur les réparations, puis mais ça demeure quand même un problème majeur. En parlant de structures détériorées, parlons des Forces armées canadiennes. Seulement 58% des effectifs de l'armée canadienne seraient en mesure de répondre à un appel de l'OTAN en cas de conflit. C'est un document daté du 31 décembre dernier qui a été obtenu par la CBC. Et qui nous montre que c'est de la négligence. On sait que le matériel militaire, là, on est pris avec des équipements donc qui datent depuis longtemps, qui n'ont pas été renouvelés. Je vous donne un seul exemple ce matin. 55% des chasseurs de l'aviation maritime, recherche, sauvetage, aviation tactique, appareils d'entraînement, moyens de transport, 55% de ces appareils sont considérés comme pas utilisables. Ça, c'est pour les avions. Là, rajouter des autres types d'équipements, c'est un peu la même chose. C'est une force canadienne qui est complètement désorganisée. Rapidement, les autres nouvelles. La presse nous dit ce matin, dans le cadre d'un témoignage, l'homme d'affaires Robert Miller, qui a vendu sa compagnie pour quelques milliards de dollars, qui est un milliardaire, donc, reconnu, qu'on soupçonne d'avoir eu des relations sexuelles payantes avec des jeunes femmes pendant des années, une espèce de réseau informel, où des gens ont collaboré, des facilitateurs, hôtels à Montréal et tout ça. Lui, aujourd'hui, il est très malade, paraît-il qu'il ne sort pas de sa chambre. Et on a appris que ce milliardaire n'avait aucun compte de banque. C'est quelqu'un qui va croire ça. Et que le compte de banque utilisé pour payer les jeunes filles et les intermédiaires était détenu par une autre personne de l'entreprise. Ce sont des fonds de l'entreprise qui ont été utilisés pour dédommager une des victimes. Alors donc, ce procès, si vous voulez, continue. Et l'autre chose aussi qui est assez troublante, on a appris le transfert de Magnotta à la prison La Macasa. Il va retrouver parmi les co-détenus Paul Bernardo. Quand je vous dis que c'est une prison où on envoie ce qui n'est pas gardable dans les autres institutions, c'est un exemple. Et là, il y a pas mal de députés qui se posent des questions en disant « Mais comment ça se fait qu'on sort Magnotta d'un supermax et qu'on l'envoie, puis Bernardo, puis... » On comprend qu'il ne faut pas que le politique se mêle de la gestion des libérations ou des transferts, mais quand même, là. Et La Macasa, c'est, vous le savez, au nord de Mont-Laurier, et c'est une prison où vous retrouvez des agresseurs. C'est une institution, je dirais, pratiquement poubelle. Vous avez des agresseurs, vous avez des ripoux, vous avez toutes sortes de monde qui, là-dedans qui sont pas, qu'on peut pas garder dans d'autres institutions. Alors, les députés au fédéral commencent à s'interroger pas mal sur cette question-là. Et juste pour rire, pas de nouveau, encore bien des questions. Et je vous le dis, on se prépare un joyeux débat sur le financement des festivals au Québec. Pas juste à Montréal, mais un peu partout. Les festivals gratuits qui ont fait la renommée de Montréal, mais du Québec. Ce modèle d'affaires peut survivre pendant combien de temps? Puis la vraie question, c'est combien ça va coûter de plus aux municipalités, au gouvernement pour avoir les festivals? Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises privées qui ont pu profiter des festivals. Le groupe Juste pour rire s'est enrichi avec le festival. Mais là, la donne change, le portrait n'est plus le même. On parlait de 13 millions de dollars de subventions en l'espace d'une couple d'années avec les Juste pour rire. Mais je vous le dis, moi, je me pose bien des questions sur la gestion, sur les états financiers de Juste pour rire.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Dans cette journée internationale des droits des femmes, j'aime toujours recevoir deux invités qui ont des horizons complètement différents, mais qui sont des femmes inspirantes, puis des femmes qui marquent leur domaine. Je vous présente nos deux invités ce matin. Dr. Diane Francoeur, qu'on a connue à la Fédération des médecins spécialistes, qui est directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Docteur Francoeur, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Et France Beaudoin, qui est dans un univers complètement différent dans le monde de la télévision et de la production. Bonjour, France.
Bonjour.
Docteur Francoeur, je commence avec vous. Parce que il y a beaucoup de débats qui reviennent, des questions qu'on croyait réglées. Je pense surtout à l'avortement, là. Ce droit des femmes à avoir un avortement. Et là, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe dans les autres pays. Comment vous expliquez ce recul sur ce droit fondamental?
Mais c'est très difficile à savoir comment on en est arrivé là. Lorsque je parle avec mes vis-à-vis américains, qui à la directrice générale, par exemple, de l'organisation, lorsque tout ça a commencé, c'est comme s'ils l'ont pas vu venir, mais pourtant... on voyait un petit recul qui s'installait tranquillement et puis c'est comme si soudainement on a perdu le contrôle et maintenant on a vraiment perdu le contrôle parce que si on prend le centre des États-Unis, c'est extrêmement difficile d'avoir accès. La régulation fait en sorte que les femmes doivent vraiment être créatives et avoir un portefeuille bien garni pour avoir accès à l'avortement et ça fait vraiment peur parce que on s'aperçoit que finalement, même quelque chose qui nous semblait impossible et gros peut être décidé du jour au lendemain par le politique. Donc, rien n'est acquis. Alors, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut répéter, mesdames, on a besoin de vous. parce que si jamais on essaie de nous enlever nos droits ici, que ce soit au Québec ou au Canada, il faut que les femmes aillent voter de façon massive. Et c'est ce que nos collègues américains pensent qui va arriver à l'automne, mais...
Êtes-vous inquiète pour le Canada? On se dit, bon, ce sont les Américains, mais ici, il n'y a pas vraiment d'enjeu.
On est très inquiets pour le Canada parce que il s'agit, par exemple, on a eu beaucoup de discussions récemment avec la France qui vient d'entrer les droits à l'avortement dans leur constitution. Est-ce qu'on devrait pas essayer de protéger les femmes au Canada? Quand on n'est pas impliqué dans ces dossiers-là, ça semble être une belle idée pour protéger les femmes, mais malheureusement, on s'aperçoit que le jour où on ouvre juste un petit peu, tout est sur la table. Et les gens de droite sont extrêmement puissants, organisé. Influents, organisés. Et si on va pas voter lorsque ces choses-là sont sur la table, ben on risque de perdre.
Je vais parler de votre pratique. Comme médecin, vous avez travaillé beaucoup avec des adolescentes enceintes. Vous avez fait votre spécialité, sur spécialité aux États-Unis, justement dans ces cliniques de planning, ces cliniques. Comment ça se passait, donc, cette expérience avec des gens de la communauté noire aux États-Unis, des gens qui sont vulnérables et pauvres?
Ben, en fait, l'expérience était assez traumatisante, je dirais. Lorsque je suis arrivée la première semaine, le samedi, il y avait une grande manifestation familiale dans la rue contre l'avortement avec des grandes banderoles et des pinces qui écrasent un bébé. C'était assez troublant là, pour moi qui venais d'un pays où tout était facile. Et là, j'ai regardé dans les journaux, est-ce qu'il y a eu une nouvelle loi? Non. Mais finalement, je me suis aperçu qu'à tous les samedis matins, il y avait une manifestation familiale contre l'avortement. Et même dans l'hôpital où je travaillais, on n'avait pas le droit de dire le mot avortement, sinon on perdait complètement tout notre financement pour la contraception des jeunes. C'était assez troublant. Bon, au début, c'est sûr que lorsqu'on travaille au Québec, par exemple, où on a une liberté professionnelle incroyable et qu'on n'a pas de limite à ce qu'on va choisir ou à ce qu'on va recommander. Bon, au début, je ne prenais pas vraiment ça au sérieux jusqu'à temps que le personnel me dise « Diane, tu peux pas dire ce mot-là ici. On va tout perdre notre financement. Il y a des gens qui nous surveillent tout le temps. » Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était vraiment dangereux et on risquait de tout perdre. Et malheureusement, ben on voit que justement, moi j'étais au Kentucky, dans ces États qui sont très, très à droite. Et dès que l'occasion s'est présentée, ils ont passé des lois qui enlèvent tous les droits aux femmes finalement. On travaille, un des dossiers que je travaille présentement, c'est de diminuer la mortalité maternelle. Donc les femmes qui meurent autour, pendant, après la grossesse. Et on s'aperçoit que les chiffres augmentent aux États-Unis parce que les femmes meurent d'une grossesse ectopique. Le concept de l'embryon qui se développe, qui a tous les droits, on laisse mourir les femmes parce qu'on ne veut pas intervenir, parce que les médecins ont peur d'aller à la cour, parce qu'ils passent à des comités de discipline. On doit laisser faire la nature parce que la vie est plus forte que tout.
C'est la mère
tout.
Qui paye le prix.
Absolument. Donc, la mère n'a plus de droits.
Je me tourne vers France Beaudoin. C'est un univers complètement différent. Je ne veux pas parler à l'animatrice ce matin, je veux parler à la productrice. Je regardais mes notes et il y a des gens qui disaient, quand vous êtes devenue productrice, comment cette femme douce va faire pour diriger une compagnie de production? Vous l'avez entendu, celle-là, France?
Je l'ai entendu, je l'entends de moins en moins. Ne serait-ce que la semaine passée, il y a quelqu'un qui l'a pensé. Je ne nommerai pas.
Mais a pensé, mais dites-moi oui. Ça un peu.
Ah oui, qui l'a pensé. En fait, j'étais vue comme une petite fille. Est-ce qu'elle va avoir assez de poigne? Est-ce qu'elle va avoir assez de caractère? Est-ce qu'elle va avoir assez de colonne pour être capable de trancher, de prendre des décisions? Heureusement, moi, j'ai entendu des femmes, plein de femmes, entre autres une Sophie Brochu qu'on connaît tous, qui est pour moi une espèce de modèle de communication, de gestion. J'entendais cette femme-là dire, moi, je cherche pas le pouvoir. Moi, je cherche à avoir de l'influence pour avoir de l'impact. Heureusement, il y a des femmes qui se manifestaient, que j'entendais comme ça, parce qu'effectivement, mais ça vient aussi du fait vouloir produire, ça vient aussi du fait qu'on a entendu d'autres commentaires un peu dinosaures dans le temps. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, dans les premières auditions que j'ai passées dans la vie, je me souviens d'une audition pour être présentatrice météo. J'étais ressortie de là, puis le patron m'avait dit, écoute, faut que je te dise pourquoi tu l'as pas eu. C'est pas que t'as manqué ton audition, mais je vais être franc avec toi, les blondes pognent plus à la TV. On peut plus avoir des gars qui regardent longtemps notre émission parce que les blondes pognent plus. Écoute, j'étais revenue dans mon char en me disant, mais quel con, je peux pas croire que je viens de me faire dire ça. Un an plus tard, il y avait un autre patron, j'avais passé une autre audition, puis là, on commence, là, il y a 30 ans, on était à une autre époque, tu vas me dire, mais il y a un autre patron qui m'avait dit, vous avez un look régional, madame, vous avez pas le sexy urbain, malheureusement, mais vous allez être super bonne en région, mais à Montréal, ça sera pas possible. Donc, c'est à partir de commentaires comme ça où je me suis dit, écoute, je vais me prendre en main, je vais me prendre en charge, puis je vais essayer de produire pour contrôler au moins une partie de ce que je peux contrôler comme patron ou comme forme d'entreprise. C'est pas parfait, bien évidemment. Puis il y a plein de gars, collègues, producteurs qui font de super jobs actuellement. Mais on arrive d'une époque où ça a créé le besoin de s'organiser, en tout cas dans mon cas, moi.
Mais je regarde, il y a plein de femmes dans le domaine de la production. Là. Évidemment, je pense à toi, mais je pense à Fabienne Larouche. Je pense à Denise Robert, qui est une productrice hors pair. C'est des femmes qui se sont imposées dans un milieu qui était pas mal contrôlé beaucoup par les gars, là.
C'est sûr qu'au début, c'était ça. C'est ce qu'on tentait maintenant. Il y a plein de femmes qui sont aux directions des diffuseurs aussi. Puis c'est dans plein d'autres domaines autour de nous. J'entendais nos équipes cette semaine produire des émissions spéciales pour le droit des femmes, justement, aujourd'hui. Puis l'équipe parlait d'un reportage qu'ils faisaient avec Dina Gilbert, qui est une femme, donc chef d'orchestre qu'on connaît à Montréal. Elle disait que ça va prendre des décennies avant qu'on arrive à la parité dans son domaine à elle. Elle disait que c'est à cause d'auditions à l'aveugle qu'il y a une représentativité actuellement des femmes dans son milieu parce que la virtuosité, parce que justement le leadership, l'autorité, c'est encore quelque chose qui est vu pour les hommes.
Est-ce que, si je te demandais ce matin de dire quels sont les combats importants à mener pour les femmes en 2024, là, pour les prochaines années? Ce serait quoi?
Ben, Il reste encore de l'équité. Je suis obligée de te dire que qu'il y a quelques années, à peine, je me suis aperçue que j'avais pas l'équité dans certains secteurs de ma vie, parce que je faisais aussi des conférences, je produisais aussi des corpos et autres. Puis il y a quelque chose dans ma vie où je me suis dit, écoute, je suis obligée de te dire que la journée où je me suis aperçue que je n'avais pas l'équité, alors que j'ai deux mains d'un chiffre, il y a une honte qui s'est emparée de moi, alors que c'est pas moi qui me l'ai pas donné, bien évidemment, mais je me suis dit, hey, si moi j'ai deux mains d'un chiffre, puis que je me suis pas aperçue que je l'avais pas à bien des endroits, comment ça se fait? Alors, je me suis dit, il faut aussi que les femmes, on assume ce qu'on est, on mette ça à table ce qu'on vaut. Il faut qu'on n'ait pas peur de négocier, qu'on n'ait pas peur de la réussite, du mot ambition, de l'argent. Il faut qu'on assume aussi ce bout-là. Puis il y a tout ce qui est femmes vieillissantes, évidemment, à l'écran. On l'entend beaucoup dans les reportages que j'entendais des femmes, qu'elles soient comédiennes ou autres, on l'entend. Ça, la peur de vieillir à l'écran, ça s'améliore, mais juste qu'il reste cette peur-là, c'est pas normal non plus. Hier, on rigolait parce que il y a quelque chose dans le milieu qui fait que t'entends souvent le 25-54 là, en sondage, le fameux 25-54 ans. Moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis 54, ben moi, je l'ai le 54, je l'ai la fameuse date de péremption. Ce qui me fait beaucoup rire parce que moi, ça me crée une espèce d'effet, excuse-moi, rebelle en dedans de moi. Puis je me dis, quand je regarde les gens autour de moi, c'est la date du 54, c'est cette année-là qui a plus de bon sens, qui est périmée et non la personne. Moi, je connais aucune chum de fille autour de moi qui ont 54 ans, qui consomme pas, que ce soit de l'épicerie, du voyage, de la pharmacie, de l'auto, parce qu'on parle de publicitaire quand on parle de 25-54. Il y a aucune fille autour de moi qui berce sa galerie en attendant. On n'a pas le temps. Castel qui ont 80, ma mère qui a 85, ils vont toutes nous coucher puis nous challenge. Donc, il y a quand même un coup au niveau de la femme qui vieillit à l'écran, qui est encore à gagner, assurément.
Je pose une question à toutes les deux, parce que ça m'est arrivé souvent d'offrir, par exemple, un poste à quelqu'un, de dire, je voudrais que tu deviennes productrice de l'émission. Quand tu poses cette question-là à un gars, il te demande pas, ouais, t'es-tu bien sûr que je suis capable de faire la job? Les femmes me disent ça. Ça m'est arrivé souvent, à des productrices, dire, ben, écoute, je veux travailler avec toi. Tu penses vraiment que je suis capable? Pourquoi il y a ce réflexe-là, oui. Diane Francoeur?
Syndrome de l'imposteur, que ça s'appelle.
Encore?
Ah! Je vais vous donner un exemple. Les chirurgiennes, là, ils sont super bonnes, super bien formées, ils sont excellentes, elles savent tout ce qu'elles font. Mais là, on s'aperçoit présentement, on a un souci pour si on peut être poli, qu'on n'est pas capable d'opérer jamais parce qu'il manque de personnel. Là. Alors, la chirurgie, là, faut en faire pour être bon. Mais les femmes vont commencer à douter beaucoup plus vite que les hommes. Les hommes, vont dire, moi, je suis bon, je vais rester bon. Alors que les femmes, si elles ont pas assez d'exposition, on dit, ben là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros cas, peux-tu venir m'assister au cas où? Elles sont aussi bonnes. Syndrome de l'imposteur. Alors, je suis 100% d'accord avec Mme Beaudoin. Oui, il faut se tenir debout, puis je vous dirais, ce qui nous menace, c'est vraiment, vraiment les médias sociaux qui démolissent les femmes et les hommes vont être capables de se boucher les oreilles, se pincer le nez, avancer, mais les femmes vont ruminer toutes ces petites attaques vitrioliques tout
parce
le temps.
Parce que ça, c'est important, France aussi, parce que t'es à la télévision, t'es une animatrice, t'es populaire, il y a toujours un fond de fiel. Ça touche n'importe qui est sur l'espace public, mais quand c'est une femme, on l'a vu en politique, c'est pas juste des critiques, ça devient des attaques misogynes carrément.
Ah, c'est très dur. C'est vraiment très dur. C'est personnel. Je voyais des commentaires sur Éléonore Lagacé, qui était, par exemple, la semaine dernière avec nous sur En direct de l'Univers, qui a une énergie, qui a une espèce de liberté, qui a une espèce... C'est sûr que c'est beaucoup plus critiqué quand c'est une femme qui le fait aussi. Oui, on sent. Ça devient personnel et autre. Puis en même temps, je vois une espèce de jeunesse femme décomplexée, qui pousse actuellement aussi, qui est assez inspirante. Merci. Encore dans nos bureaux cette semaine, j'entendais un reportage de l'équipe Mammouth, donc de l'équipe jeune Mammouth, qui faisait un reportage sur les menstruations, puis c'était frontal. C'est vraiment dit avec humour, donc avec un recul. Et on était très, très loin des serviettes hygiéniques là avec un petit liquide bleu, là parce qu'on n'était pas capable de nommer ce que c'est, puis on n'était pas capable de dire ce que c'est pour de vrai. Donc, cette espèce de jeunesse décomplexée-là, capable de répondre aussi. Il n'y a pas un commentaire qui vaut ça là, sur les médias sociaux, entendons-nous bien, là, je ne suis pas en train d'excuser quoi que ce soit, ça n'a pas lieu d'être et c'est inacceptable. Mais je vois ces femmes-là répondre qu'il y a quelque chose de beau dans cette jeunesse-là qui pousse. Là.
De façon plus globale, sur la santé des femmes, on a l'impression, peut-être qu'on est à tort, là, mais que des recherches sur des problèmes de santé qu'on retrouve plus souvent chez les femmes sont négligées. Je pense à la migraine. Je pense aux problèmes de santé cardiaque. Est-ce qu'on a négligé la recherche ou on n'a pas tenu compte des différences entre les hommes et les femmes quand on faisait de la recherche?
J'aime beaucoup votre question. Il y avait un super webinaire hier qui est fait par McKinsey qui était justement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que les hommes et les femmes soient égaux. Et on s'aperçoit lorsqu'on regarde tous les problèmes de santé, ce qui est vraiment, vraiment relié à la santé gynécologique, c'est à peu près 5 à 10 %. Le reste, c'est d'autres problèmes, par exemple, les problèmes auto-immunes. On a vu avec la COVID longue, ça touche surtout les femmes. Et oui, il faut investir et bon, évidemment.
Mais la migraine, par exemple, c'est majoritairement
absolument.
Des femmes.
Oui, absolument, parce qu'il y a un volet hormonal à ça. Et le volet hormonal, mais ça va varier avec le cycle menstruel. Et on sait que les femmes sont beaucoup plus touchées par ça, mais tant qu'on ne sera pas capable de mettre des mots, et il y a un mouvement présentement qui s'installe avec l'industrie qui commence à quantifier le coût de l'absence des femmes au travail. Parce qu'on manque de ressources humaines partout et on s'aperçoit, par exemple, une femme qui a des migraines, elle va manquer des jours de travail. Et souvent, si on est capable d'accommoder, faut quand même qu'on apprenne quelque chose. La COVID, là, ça nous a appris que oui, on peut être très bien et très efficace de travailler de la maison quand ça file pas, plutôt que de se lever à 5 heures et d'aller, ça vous dérange pas, vous êtes habitué, mais...
même avant ça.
et d'aller au bureau, ces femmes-là pourraient être très bien performante plutôt que de prendre toujours une journée de maladie après l'autre, et que la banque est vide, on finit par prendre ses vacances, les égrener, parce que 2-3 jours par mois, on n'est pas fonctionnel. Et il faut qu'on regarde le coût de tout ça, le coût sur la santé de la femme elle-même, mais le coût pour la société. Les femmes, c'est des profs. Les femmes, ce sont des infirmières. Les femmes, ce sont des greffières, ce sont des policières. C'est des métiers maintenant où on manque cruellement de personnel. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les garder au travail.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin et poursuivez vos œuvres respectives. Vous inspirez beaucoup de femmes et beaucoup de gars aussi. Madame Francaire, merci beaucoup. France, merci d'avoir pris le temps.
Merci, Paul. Puis merci aux gars qui font équipe avec les femmes. Il y en a plein.
Merci beaucoup. Diane Francaire et France Beaudoin.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
« Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons évidemment de cette tuerie à Ottawa. C'est un drame terrible. 6 personnes assassinées, notamment 4 enfants. Il y a un individu qui a été arrêté. Bénédicte Lebel est à Ottawa. Bonjour, Bénédicte.
Allô, Paul.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on a appris sur les circonstances de ce drame-là? Il y a 6 personnes, je le disais, d'assassinées, puis il y a un jeune homme de 19 ans qui a été arrêté.
Jeune homme de 19 ans qui était hébergé par la famille, c'est ce qu'on a pu nous expliquer hier. Le bilan, il est très lourd. On parle d'une des pires tueries qui soit survenue à Ottawa. 2 adultes, 4 enfants, tu le disais, qui ont été retrouvés morts à l'intérieur d'une résidence sur la promenade Berrigan dans le quartier Barhaven. On est à une 20aine de kilomètres du centre-ville d'Ottawa. Et parmi les victimes, il y a une mère de famille, Darshani Dilantika Ekaniake, 35 ans. Il y a son fils de 7 ans et ses 3 filles de 4 ans, 2 ans et 2 mois qui ont été tuées. Hier, on a parlé d'une arme tranchante. Ça s'est passé dans leur propre maison. Et en plus de l'homme de 19 ans qui était hébergé, il y avait aussi un homme de 40 ans qui habitait avec la famille, qui a lui aussi été assassiné. Le père était présent quand ça s'est passé. Danushka Wickramasinghe, qui a été blessé gravement, mais qui est toujours en vie. Et c'est lui qui a appelé à l'aide, selon ce qu'on nous a expliqué hier. Les 6 victimes sont d'origine sri-lankaise, tout comme le suspect. Fibrio De Souza, qui a été accusé hier de 6 meurtres au premier degré, de tentative de meurtre aussi. Ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'il est venu s'installer récemment au Canada pour ses études et, comme je le disais, qui habitait avec la famille. On a posé la question hier, les policiers ont dit qu'il n'y avait pas d'antécédent criminel, il n'y avait pas de dossier médical concernant sa santé mentale au Canada. Ce qui veut dire que ce matin, on se retrouve et on n'a toujours pas le mobile de ces 6 meurtres. Le père est arrivé au Canada en 2020. Sa femme et les enfants l'ont rejoint il y a environ 1 an. Ils s'impliquaient beaucoup au sein de la communauté sri-lankaise locale. Ils avaient des projets, ils avaient des rêves en s'installant ici. Et j'ai rencontré des amis de la famille sur place hier qui étaient très ébranlés. Eux se préparent à se déployer pour bien entourer le père parce que t'imagines à quel point il va en avoir besoin. Je te laisse entendre une amie à qui j'ai parlé hier.
They wanted a bright life for their kids and better and safer environment. And unfortunately, that is not what happened.
Elle dit qu'ils voulaient une belle vie pour leur enfant, dans un meilleur environnement, plus sécuritaire. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et je te parle en direct ce matin du parc Palmadeo. C'est un endroit où c'est pas très loin de la résidence et spontanément, les gens se sont recueillis ici. On vient déposer des toutous, des chandelles, des fleurs. Hier soir, il y avait beaucoup de monde, je te dirais une centaine de personnes. Le silence qui était lourd de sens. Ici, plusieurs personnes qui étaient en pleurs. Il y a encore des personnes un peu qui se rendent ce matin. C'est un quartier vraiment très familial, il faut le dire, alors que plusieurs parents sont venus avec leurs enfants. Et la question, c'est comment trouver les mots pour leur expliquer. On écoute une maman que j'ai rencontrée.
On est très triste. On connaît la famille, les enfants. C'est difficile à expliquer à un jeune enfant qu'est-ce qui est arrivé à son ami de l'école, que c'était quelque chose de très violent et tellement triste.
Et c'est ça, la vérité, c'est que c'est incompréhensible ce qui s'est passé. C'est difficile de trouver les mots. 6 morts, 4 enfants, des meurtres gratuits, des personnes innocentes. Et je vais terminer avec une pensée pour les équipes qui sont arrivées sur la scène. C'est jamais facile, on le sait, quand il y a des enfants en plus qui sont impliqués. On m'a dit que ça a été très, très difficile pour les policiers. La scène est complexe et le travail est vraiment pas terminé. On peut écouter là-dessus Patricia Ferguson, qui est chef adjointe de la police ici.
On va être là pendant des jours à procéder à cette scène-là. Et puis, c'est très difficile. Je vois sur leur visage, c'est lourd, c'est épouvantable. Il n'y a pas de raison pour expliquer ce qui s'est passé.
C'est ça qui est difficile à comprendre, la raison. Même au lendemain, les questions se posent.
J'avais l'impression, en lisant ce matin, entre autres, le Globe and Mail, que c'était une famille très accueillante. Une des victimes est une femme d'une 40aine d'années qui a été hébergée là. Le suspect a été hébergé là parce qu'il arrivait du Sri Lanka, officiellement comme étudiant. ils ont été en quelque sorte victimes de leur générosité. Là. C'est une image, mais c'est quand même ça. Pourquoi ce gars-là a posé le geste? On ne sait pas. On dit qu'il avait des idées noires depuis un certain temps, qu'il ne fréquentait pas l'école depuis autour d'un an. Mais ce sont des gens généreux qui avaient ouvert les portes de leur famille, de leur maison.
Oui, exactement. Exactement. Et c'est ce que les amis et les proches à qui j'ai parlé hier me disaient. C'est beaucoup comme ça. Ils sont très impliqués dans la communauté. Des gens avaient besoin et ils ont décidé, même s'ils avaient déjà 4 enfants, d'ouvrir leurs portes. Et malheureusement, ça a amené à ce qu'on a vu hier.
Bon, parlons de ce qui s'est passé hier en fin de journée à Villemar. C'est une femme et ses 2 enfants qui ont été happés par une voiture. Heureusement, les nouvelles sont bonnes concernant leur état de santé.
Mais je te dirais qu'on a vraiment eu peur. Là, ça se passe un petit peu après 16 heures, boulevard Vérandré et Jolicoeur dans Villemort. Il y a une femme de 30 ans qui traverse la rue avec ses 2 enfants de 2 ans, mais aussi un bébé de quelques semaines là, dans ses 2 enfants. Les 3 personnes ont été blessées, la mère blessée aux hanches, mais les enfants à la tête. Ce qu'on nous a confirmé ce matin, c'est qu'ils sont hors de danger. Évidemment, vont devoir passer des examens. Le conducteur, c'est un homme de 41 ans qui était sur Jolicoeur, qui faisait un virage vers l'ouest, et lui a dû être traité pour un choc nerveux. Et là, il y a des enquêteurs qui vont se pencher sur le fil exact là, des événements.
Et puis, tentative de meurtre sur 2 hommes à Montréal-Nord.
Un petit peu avant 19 heures, il y a eu des coups de feu. C'est au coin des rues Pascal et Lapierre dans Montréal-Nord. Sur place, les policiers trouvent qu'il y a un homme de 35 ans qui est blessé par au moins un projectile. Lui est étendu entre 2 voitures. On le transporte à l'hôpital. Et là, vers 21 heures, il y a un homme de 29 ans qui se présente lui-même à l'hôpital, blessé, semble-t-il, dans le même événement. Les 2 sont hors de danger au moment où on se parle. Il y a 2 suspects qui auraient fait feu avant de prendre la fuite. Ce serait lors d'un attroupement de personnes dans ce secteur-là. Mais ce qui est difficile pour les policiers à ce moment-ci, c'est que les 2 victimes ne collaborent pas beaucoup.
Merci beaucoup, Bénédicte. Abordons la question du changement d'heure en fin de semaine. On passe à l'heure avancée et ça peut avoir peu d'impact pour des gens, mais pour d'autres, c'est un changement, une période d'adaptation qui n'est pas nécessairement facile. J'en parle avec Dr. Alex Desautels, qui est neurologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, directeur du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Dr. Desautels, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Première question, est-ce que le changement qui vient en fin de semaine est plus dur à gérer que lorsqu'on passe à l'heure normale à l'automne?
Il est plus dur pendant quelques jours. Il est plus dur parce que déjà que la population générale est en privation chronique de sommeil, on ne dort pas assez d'heures de sommeil. Là, on vient de perdre encore 1 heure supplémentaire. Et ce changement abrupt-là va frapper le lundi. Le samedi, le dimanche, on peut un peu compenser en se levant plus tard, mais le lundi, ça frappe. Et en général, ça prend à peu près 5 à 7 jours pour se resynchroniser à la nouvelle heure.
5 à 7 jours,
c'est un décalage horaire imposé sans le voyage qui vient avec. Donc, il y a des effets, évidemment, sur les gens vont avoir un peu plus de difficultés à se lever le lundi matin, mais ça se traduit aussi sur le plan de la santé par des effets un peu plus importants. Par exemple, on sait que dans les jours qui suivent ce changement d'heure, celui qu'on va subir en fin de semaine, il y a plus d'arythmies, des types d'arythmies qui peuvent causer des AVC. Ça monte d'à peu près 20%. Il y a plus d'erreurs médicales. Il y a plus d'infarctus, des crises cardiaques qui se produisent dans les jours qui suivent. Et ces changements-là, dont je viens de vous parler, on les voit pas lorsqu'on recule l'heure. Donc, la privation de sommeil aigu va avoir des effets importants sur la santé dans les jours qui suivent, mais les effets vont se produire aussi au cours de l'été parce que on va être illuminé trop longtemps dans la journée. C'est-à-dire que normalement, pour dormir, il faut qu'il fasse noir. On est un organisme, des êtres diurnes, donc on vit le jour puis on dort la nuit. Et notre cerveau a évolué dans ce sens-là. Fait que si on est trop éclairé par le soleil le soir, ben notre cerveau peut pas mettre en place tous les mécanismes qui ont été adaptés par l'évolution pour nous endormir. Donc l'été, c'est pas bon d'être illuminé jusqu'à 8h30, 9h. Ça diminue la facilité d'endormissement. C'est pire chez les adolescents qui sont déjà décalés. Puis c'est pire chez les insomniaques aussi.
Je vais revenir à des façons peut-être pour faire en sorte que ça soit atténué, mais la question numéro 1, c'est est-ce que c'est encore nécessaire d'avancer l'heure puis de reculer l'heure d'après vous?
Ça, c'est une bonne question, là. En fait, ça a été instauré dans différents pays aux guerres, à la Première Guerre mondiale en Europe, ici autour de la Deuxième Guerre mondiale, pour accroître la productivité. Donc, l'idée, c'était de que les gens, les travailleurs, pouvaient travailler plus longtemps dans des conditions éclairées sans qu'on ait à payer l'éclairage. L'éclairage qui était dans ce temps-là souvent fourni par le pétrole. Puis ça a réaugmenté, en fait, ça a été instauré dans d'autres pays quand les prix du pétrole ont flambé. Maintenant, on sait que, ben, premièrement, on n'est pas en guerre ici. Deuxièmement, l'électricité ici est produite par l'hydroélectricité. On est moins dépendant du pétrole. Puis l'éclairage, c'est pas ce qui fait la plus grande partie du coût de l'électricité. C'est surtout le chauffage puis la climatisation qui sont dépendants de la météo, pas de la luminosité. Donc les raisons pour lesquelles ce changement-là a été mis en place sont plus valides aujourd'hui, mais les impacts sur la santé, eux autres, persistent. Donc, pour répondre clairement à votre question, là, c'est désuet maintenant. On n'a plus besoin de faire le changement d'heure.
Est-ce que vous avez un plan de match à proposer à mes auditeurs là, pour la fin de semaine puis pour le début de la semaine prochaine?
Ouais, il n'y a pas de solution miracle. Là. C'est encore une. Tu sais, quand on parle de sommeil, là, des fois, on essaie de même compliquer ça, là, mais ça reste super simple. Fait que c'est comme quand on voyage en décalage horaire. Fait que dans le fond, on va tout doucement s'adapter. Fait que là, par exemple, en fin de semaine, on avance l'heure. Fait que ce qu'il faudrait faire, c'est se coucher un peu plus tard et se lever un peu plus tard. Puis pour les enfants qui font des siestes, bien, décaler la sieste de 15-20 minutes. Puis on commence ça à peu près 5-7 jours avant. Donc, on décale notre sommeil. Puis quand on va reculer l'heure, bien, on se recouche un peu plus tôt, on se lève un peu plus tôt pour bénéficier d'une plus longue journée pour favoriser l'endormissement. L'autre chose, on y pense moins souvent, mais tu sais, tout notre corps est régulé par une horloge interne. Puis une autre façon de réguler notre horloge interne, c'est les repas. Donc notre corps est habitué de manger à des heures très précises et en décalant un peu nos repas de 15-20 minutes une semaine avant, bien, on va favoriser ça. On va favoriser l'endormissement puis on va se resynchroniser plus rapidement.
Est-ce qu'une sieste, ça peut aider? Quelqu'un qui dit, je sais pas, je dors 15 minutes, une demi-heure l'après-midi, c'est une bonne affaire?
Les siestes, là, c'est le secret le mieux gardé en médecine. Une sieste, là, de 15-20 minutes, au bon moment, là, quand on est un peu fatigué, quand on a de la misère à se concentrer, c'est là qu'il faut faire la sieste. Mais il faut la faire à un moment précis, donc vers le début de l'après-midi, c'est là où on est le plus somnolent en général, puis on met un réveil matin, après 15-20 minutes. Si on dort trop longtemps, bien, on va faire ce qu'on appelle du sommeil profond, puis ça va être difficile, le réveil va être difficile, puis on peut aussi décaler notre sommeil la nuit. Donc, des siestes de l'après-midi, c'est vraiment très bon, il faut juste que ça soit fait dans les bonnes conditions.
Puis les bonnes conditions, c'est quoi, la noirceur?
La noirceur, donc c'est pas dans l'auto, c'est pas assis dans notre chaise de bureau, c'est couché avec un oreiller confortable dans la noirceur puis pas de bruit. Puis vous allez voir, c'est meilleur que le meilleur des cafés.
Merci beaucoup, docteur des hôtels.
Merci à vous.
Très gentil à vous. Docteur Alex Desautels, qui est neurologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et directeur du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Maintenant, avec Jean-François Lépine, plusieurs événements sur lesquels il faut revenir. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
On commence par le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden hier. On a vu les enjeux. Il l'a nommé Donald Trump à plusieurs reprises. Puis en toile de fond, il y a toujours la question de son âge là, qui est omniprésente.
Exactement. Un discours dont il avait besoin, hein, parce qu'il traîne de l'arrière dans les sondages, même si ce ne sont que des sondages. Et comme tu le dis, il y a des questions importantes comme la question de son âge. J'ai entendu hier, après le discours, un commentateur senior là, de CNN qui disait que c'était pour lui le discours le plus politisé auquel il avait assisté. Tu l'as toi-même dit, tout le monde parle aujourd'hui du fait qu'il a mentionné 15 fois Donald Trump, mais sans jamais mentionner son nom, toujours en disant mon prédécesseur et en l'attaquant directement sur son bilan. On a vu un président énergique, qui a presque pas fait de faux pas ni de bafouillement sur la question de la frontière, entre autres, qui est un enjeu majeur de la politique américaine, la frontière sud. Il a dit, parlant de son prédécesseur, donc de Trump, « Je lui ai offert une action bipartisane qui aurait contribué à régler le problème, à sauver des vies. » Il a refusé. « We can fix the border », il a dit ça en anglais. « Mais vous, les républicains, vous ne voulez pas. » Alors, on voit là donc l'attaque de front. Et face à ça, il a vanté son bilan économique. Et ça, c'est une chose importante parce que c'est Donald Trump lui reproche de mener les États-Unis à la catastrophe. Hein. Le bilan économique américain va, l'économie va très bien. Il a vanté, entre autres, ses politiques dans le domaine des investissements dans les infrastructures, le développement de l'industrie des microprocesseurs qui est critique pour le développement, entre autres, de l'intelligence artificielle, le développement de la manufacture américaine. On a vu à plusieurs reprises, Paul, et ça m'a paru intéressant de le noter, que Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants qui était derrière lui, hochait souvent la tête de façon positive durant le discours du président. On le voyait applaudir, même s'il cachait ses mains pour pas le montrer officiellement. Le président a dit, parlant encore de Trump, « Avant, on importait des biens de l'étranger et on exportait des emplois. Aujourd'hui, on manufacture plus que jamais et on crée des emplois. » Je pense que c'est assez révélateur là, de sa position face à Trump sur la question économique. Mais aussi, il a vraiment, sur les questions internationales, lancé un autre appel aux républicains en disant « L'histoire nous regarde. History is watching us. » Sur l'Ukraine, entre autres. Il a rappelé que même Ronald Reagan, un républicain à l'époque, avait pris une attitude ferme face à la Russie sous Gorbatchev à la fin des années 80 en disant « Faites tomber le mur de Berlin ». Tout ça pour rappeler que lui, hein, il a pris une attitude ferme, lui, Joe Biden, face à Poutine. Il a renforcé l'OTAN au moment où Donald Trump lui-même a une attitude assez controversée face à l'OTAN. Il y avait même, le gouvernement américain avait même invité hier au discours sur l'État de l'Union le premier ministre de Suède au moment où on confirmait l'entrée officielle de la Suède au sein de l'OTAN. Ça, c'est une autre défaite pour la Russie de Poutine. Sur le plan intérieur, et ça c'est important aussi, là, il a invité de façon très ferme les républicains à se battre pour protéger la démocratie intérieure. Il leur a dit « Il faut mettre fin à votre ambiguïté sur les événements du 6 janvier au Capitole. Il faut mettre fin aussi à votre ambiguïté sur les résultats de l'élection de 2020. » C'est une attaque encore directe à Donald Trump et à tous ceux qui nient encore la victoire de 2020. Donc, on a vu un président qui, visiblement, là, est rendu à une autre étape où il ne croit plus à un compromis bipartisan. Il passe à l'attaque. Il annonce des mesures qui vont être contenues probablement dans son programme électoral. Donc, il commence déjà la campagne en annonçant des hausses des impôts des entreprises, hausses des impôts des milliardaires, forcer les compagnies pharmaceutiques richissimes à réduire le prix des médicaments. Il veut bannir les armes d'assaut. Bref, ça a été vraiment une offensive politique extrêmement importante. Et au-delà de tout ça, il a attaqué directement lui-même la question de son âge. Il a rappelé tout ce qu'il avait vécu en politique, mais aussi sa vision de l'avenir et son progressisme. Hein, il a dit « J'ai servi sous le premier président noir des États-Unis et j'ai été le premier à choisir une vice-présidente. » Et Mme Kamala Harris s'est levée et elle a été très heureuse de cette remarque-là. Et il dit fermement à la fin du discours « Je ne m'en irai pas, je suis optimiste. Ce qui est pire, c'est quand vos idées sont vieilles. Donc moi, je suis un progressiste, je reste et je signe. » Qu'est-ce que tout ça va donner, Paul? C'est la grande question. Mais en tout cas, tout le monde le surveillait hier. Tout le monde surveillait toutes ses attitudes liées à son âge. Il a été d'une fermeté tout le long assez particulière, assez exemplaire. Il a réalisé donc une bonne performance. Est-ce que ça va durer? C'est la grande question, évidemment, des mois qui s'en viennent.
Le dossier Gaza est important, puis c'est une question là, qui est embêtante pour le président Biden, on le tout sait, on a vu là, les manifestants pro-palestiniens, les gens qui se sont abstenus de voter ou qui ont voté de façon neutre. Il a proposé de construire une infrastructure portuaire temporaire sur la côte de Gaza pour fournir une aide aux Gazaouis.
Oui, c'était une nouvelle qu'on avait su un peu avant le discours, mais il l'a confirmé dans le discours. C'est un projet dans lequel il veut impliquer l'armée américaine. C'est l'armée américaine qui va faire ça, un projet qui va durer entre 30 et 60 jours. L'idée, c'est d'installer une installation portuaire pour, encore une fois, contrer le fait que les entrées de Gaza sont limitées, contrôlées par Israël. Donc, on veut entrer de façon beaucoup plus massive l'aide humanitaire. Il a dit lui-même dans son discours que l'aide humanitaire, pour lui, c'est un problème terrible qui le bouleverse. Donc, il veut mettre fin à la situation humanitaire catastrophique. On a vu cette semaine, au cours des derniers jours, l'échec de ces fameux largages de vivres du haut des airs, une procédure un peu humiliante où les gens se ruent sur les vivres. Et donc, Gaza, c'est un élément nuisible à sa réélection, tu l'as dit, mais c'est surtout l'incapacité de son administration d'arrêter le scandale humanitaire, donc qui le bouleverse lui aussi. Les discussions sur toute la question là, du cessez-le-feu tardent, on le voit, il y a comme une période au point mort actuellement, et tout ça alors qu'il avait promis lui-même que lundi, au moment du début du Ramadan, tout ça serait réglé. Il y aurait une période de pause dont tout le monde a besoin à Gaza. D'ailleurs, même probablement les Israéliens aussi, d'une certaine façon. Mais là, il y a une impasse qui est identifiée aux exigences du Hamas. Mais en fait, c'est un problème de plus pour le président Biden. Il a même demandé à Israël de faire sa part. Hein? Mais on a l'impression depuis le début que le premier ministre Netanyahou fait en fait ce qu'il veut. Et même les alliés des États-Unis et d'Israël n'ont pas de solution. C'est ça qui est assez frappant. On annonce là que le gouvernement canadien lui-même, qui s'est pas distingué du tout depuis le début de ce conflit-là et qui n'a pas proposé rien d'original, mais qui avait, tu t'en souviens, Paul, décidé d'annuler son financement à l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens, ben le gouvernement lui-même s'apprêterait à rétablir le financement. Pourquoi? Parce que visiblement, là, il y a eu tellement de protestations contre les pays qui ont suspendu leurs fonds à ces organisations-là et à l'UNRWA en particulier, que là, beaucoup de pays veulent corriger la situation. Il y a une enquête en cours parce qu'à l'origine de tout ça, on accusait une douzaine de personnes employés par l'UNRWA d'avoir participé aux événements tragiques, au massacre du 7 octobre dernier. L'enquête est en cours. Je rappelle toujours que c'est 12 personnes sur 13 000 seulement qui travaillent à Gaza, sans parler des territoires occupés, du Liban où l'UNRWA est active aussi. Donc ça avait été une réaction qui avait été exagérée de la part de certains alliés d'Israël. Aujourd'hui, on se rend compte que il faut absolument corriger cette situation-là. Donc ça montre tout ça, l'impuissance des alliés d'Israël devant cette contre-offensive sans limite de l'armée israélienne qui traîne en longueur et qui est dans une sorte d'impasse. Et pendant ce temps-là, toute cette souffrance de la population palestinienne.
Maintenant, il faut parler de la Chine parce que cette semaine, aux États-Unis, mercredi, il y a un ex-ingénieur de Google d'origine chinoise qui a été arrêté pour avoir transféré des informations cruciales sur le système d'intelligence artificielle de la compagnie. Il a fourni ça à une entreprise concurrente en Chine, mais ça nous ramène à ce qui se passe ici au Canada avec ce laboratoire à Winnipeg.
Oui, parce que, à mon avis, c'est une chose qui est passée un peu inaperçue dans l'actualité au Canada, là, même au moment où la juge, Mme Hogg, se penche sur les interférences chinoises dans nos élections. Mais il a fallu que l'opposition à Ottawa se batte pendant des mois pour qu'une quantité importante de documents des services, entre autres, d'espionnage canadien, soit rendue publique par le gouvernement Trudeau. Sur le cas de cette dame qui s'appelle Chiu Xian Guo, c'est une microbiologiste chinoise de réputation internationale qui a infiltré pendant plusieurs années, le fameux laboratoire de micrologie, de microbiologie de Winnipeg, qui est un laboratoire important où on analyse les souches des virus et des maladies transmissibles biologiquement pour notre sécurité, mais aussi pour éventuellement contrer à d'éventuelles attaques biologiques. Les armes biologiques, c'est très important dans le monde. Alors, cette dame, elle travaillait au laboratoire de microbiologie de Winnipeg et pendant des années, elle a transmis à l'armée chinoise des secrets canadiens visant à améliorer les capacités de la Chine, justement dans le développement des armes biologiques. C'est un scandale d'infiltration chinoise au Canada, Paul, qui est extrêmement grave et on l'a découvert lors du dépôt des documents. Un scandale que le gouvernement Trudeau a cherché comme à dissimuler depuis deux ans, depuis que la présence et le rôle de Mme Chiu et de son mari au laboratoire ont été découverts durant l'été 2019. Donc, ça fait longtemps. Je reviens sur cette histoire-là parce que elle est beaucoup plus révélatrice de l'intrusion de la Chine dans nos affaires internes et du potentiel de cette intrusion-là que la question de l'interférence dans nos élections. Et ça montre surtout, Paul, la faiblesse de nos mécanismes de contrôle. Pendant des années, Mme Chiu, son mari, M. Cheng, ont été au centre d'une immense opération chinoise visant à infiltrer les recherches les plus avancées au Canada dans le domaine de la virologie. Elle a dirigé une section importante de ce fameux laboratoire de microbiologie du Canada consacré à la recherche sur les virus. Elle a été décorée par la gouverneure générale, Paul, la gouverneure Julie Payette, en 2018, parce qu'elle avait créé un vaccin contre l'Ebola avec un grand chercheur canadien, Gary Covinger, que je connais très bien, que j'ai rencontré pendant la pandémie, entre autres. Et pendant tout ce temps-là, elle travaillait pour le gouvernement et l'armée chinoise. Elle utilisait au Canada de faux CV pour cacher ses contacts avec les plus hauts niveaux de Chine, pour cacher le fait qu'elle avait un financement chinois d'au-delà $1 million pendant ces années-là. Elle avait des liens professionnels aussi importants avec l'Institut de virologie de Wuhan. Wuhan, hein, c'est la ville où est né, où on a découvert le virus de la COVID-19 en 2019-2020. Et c'est un institut qui est au cœur, justement, de la controverse sur les origines de la COVID-19, dont on dit que un virus dont on dit qu'il pourrait avoir été le résultat de manipulation à l'Institut de virologie de Wuhan. Donc, c'est une affaire absolument importante. Ces deux chercheurs-là avaient été expulsés du laboratoire dans un premier temps en 2019, n'avaient plus le droit d'y revenir. Ils ont été expulsés définitivement de leurs fonctions. Ils ont perdu leur cote de sécurité en 2021, mais ils ont disparu et jamais, Paul, on a officiellement tenté d'élucider cette histoire-là et de dire au public ce qui s'était passé exactement. Et c'est une histoire, donc, qui ne sera pas visée par l'enquête de la juge Marie-Josée Hogg. On ne saura jamais comment tout ça a pu se produire. Et c'est ça le problème du Canada face aux interventions étrangères. C'est qu'on ne veut jamais aborder ces questions-là de façon publique et ouverte et transparente. Et ça veut dire qu'il y a énormément d'organismes au Canada qui vont continuer à être infiltrés ou à être vulnérables face à des tentatives étrangères.
Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.